traditionnel, d'une certaine façon. Alors, je terminerai sur une réflexion qui est davantage une question. C'est que signifierait, Raymond vous a parlé tout à l'heure du non-sexisme pour les jeux, pour les jouets, que signifierait le non-sexisme dans le cas des livres, et donc dans le cas qui nous intéresse, des livres pour enfants. Parce que finalement, il y a un certain nombre de livres qu'on peut qualifier de non-sexistes, des livres qui ne sont pas sexistes, mais est-ce que le non-sexisme signifie l'absence de sexisme, ou est-ce que ça signifie plus simplement l'absence de toute référence au problème du sexisme et de l'antisexisme? Je ne sais pas si c'est très clair. C'est-à-dire que un livre qui n'aborde pas du tout la question de la différence et du partage des rôles, c'est un livre, d'une certaine façon, non sexiste. Mais c'est aussi un livre qui ne pose pas cette question. Alors, c'est un petit peu la question sur laquelle j'aimerais terminer. Je ne sais pas si on pourra trouver ensemble des éléments de réponse, c'est-à-dire comment imaginer une littérature qui ne soit pas sexiste. Est-ce que c'est une littérature pour enfants qui doit résolument laisser de côté la question du sexe? Autrement dit, est-ce qu'il y a un imaginaire asexué, entre guillemets? Ou bien, est-ce que c'est une littérature qui, d'une certaine façon, considère que la question est déjà réglée et se trouve ailleurs? Ou est-ce qu'il y a une façon de régler cette question qui ne serait pas antisexiste, mais qui serait non sexiste?
Est-ce que quelqu'un a essayé de trouver la réponse? Puisque vous posez la question, il semble que c'est pas résolu, disons, on est là devant une...
Non, c'est... Il me semble qu'on en est...
On pourrait avoir, oui. Trouver la solution, mais puisque vous connaissez mieux ces enfants, vous n'en connaissez pas un, vous diriez, ça rejoint un peu ma recherche, où les choses sont un petit peu conciliées.
J'ai l'impression qu'on en est un peu à cette étape, c'est-à-dire qu'après l'étape de la dénonciation du sexisme partout, et en particulier dans la littérature pour enfants, il y a eu cette réaction qui a été de faire l'inverse, mais avec toujours cette intention démonstrative et pédagogique qui n'est jamais tout à fait absente des livres pour enfants. Et maintenant, on essaye un peu de voir comment on peut dépasser ce paradoxe et cette contradiction. Alors, il y a un livre, par exemple, mais c'est pas non plus entièrement satisfaisant, c'est un livre qui se trouve aussi à la librairie de l'Inédit, là, au stand qu'elles ont ici, qui s'appelle Conte en F. Bon, F, c'est transparent, on voit de quel pays il s'agit. Et c'est présenté comme des contes de la mythologie ou du folklore, faisant appel à différents pays, mais dont les personnages principaux, dont les héroïnes sont des femmes, et des femmes qui ont un rôle... À la limite, enfin, il y a certaines, c'est quand même le rôle traditionnel de la mère, en fait, ou de la femme mère, telle qu'elle peut être, la déesse mère, telle qu'elle peut être vénérée dans la mythologie, ou bien de la femme du côté de la paix, de la nature, mais c'est fait de façon plus subtile que le temps des pommes, par exemple. Là, il y a une histoire, en tout cas. Et le but, c'est pas seulement de démontrer que les femmes sont à l'origine du monde, c'est de raconter une histoire. Donc ça, c'est quelque chose que je peux vous faire passer, si vous voulez.
En fait, quand même, le génie des conteurs qu'on a traditionnels, Perrault, etc., c'est quand même justement qu'on passe par la fascination, la féerie du conte, pour arriver à des choses très profondes du subconscient. On pourrait peut-être souhaiter que des femmes aient ce génie du conte et l'emploi aussi, mais peut-être pas spécifiquement celui-là. Je ne sais pas si elles existent, tu ne connais pas.
Si, d'abord, certains contes de Perrault ont été. Oui, il a repris de femmes, par des femmes. Et puis, il y a Madame Dolnoy, qui a écrit de très beaux contes et qui ont quand même une tendance féministe, je dirais, où quand même le rôle de la femme est pris en question.
Et c'est à quelle époque?
17e,
oui,
17e,
c'est
et Perrault a repris de ses prédécesseuses. Par exemple, Peau d'âne a été écrite par une femme et il l'a mis en vers.
Mais justement, dans la tradition, dans la lignée de... Il y a Madame le Prince Beaumont aussi, oui. Madame d'Aulnoy. Moi, je crois qu'il y a vraiment un travail, enfin quelque chose d'énorme à faire, et qui est la création d'un imaginaire par des auteurs femmes, mais peut-être des auteurs hommes aussi, pourquoi pas, qui prennent en compte une situation qui ne soit pas stéréotypée, qui ne soit pas les rôles traditionnels, qui ne soit pas non plus exactement le contre-pied, et qui raconte des histoires dans lesquelles les filles puissent s'identifier à des personnages qui ne soient pas forcément dévalorisés ou forcément ridicules. Il y a vraiment un travail à faire, mais à mon avis, plus du côté de l'imaginaire que du côté de la démonstration et de l'idée qu'on tient à faire passer. Là, j'avais apporté, mais ça peut fournir un élément de réflexion, mais c'est surtout pour le côté amusant de la chose. Il y a un petit texte de Virginia Woolf qui est un texte qui peut être considéré comme un conte pour enfants et qui a été vraiment magnifiquement illustré et qui raconte tout simplement l'histoire d'une femme qui s'endort en train de broder une tapisserie. Et bon, alors, occupation traditionnelle de la femme, et les animaux qui sont pris dans la tapisserie pendant qu'elle s'endort s'éveillent et prennent vie, et petit à petit on rentre dans la tapisserie, même sans le texte on peut voir l'histoire se dérouler, et on entre dans ce monde imaginaire et complètement féerique où il y a toutes sortes d'animaux exotiques. Et puis petit à petit, elle-même se trouve intégrée dans ce monde de la tapisserie animée. Et bon, elle a peur d'une araignée. Alors là aussi, est-ce qu'on va dire que c'est sexiste parce qu'elle brode, elle a peur de cette araignée? C'est vraiment une question complexe. Et petit à petit, bon, société traditionnelle aussi qui passe dans la tapisserie. Il y a la reine, il y a l'espèce de majordome. Et tout... Elle fait un mouvement brusque, elle est beaucoup présentée sous les traits d'une sorcière. Elle fait un mouvement brusque, elle va se réveiller et tout rentre dans l'ordre, tout le monde est prisonnier de la tapisserie. Et ça revient, donc ça rétrécit et ça revient dedans. Alors sexiste, non sexiste, antisexiste, enfin c'est vraiment toute la question. Faire passer.
J'avais entendu sur les livres et la problématique qu'il y a autour de sexisme et littérature pour enfants, comme ce que nous avons dit sur les jeux et les jouets, suscite de votre part peut-être un certain nombre de compléments d'informations, et peut-être des choses que vous connaissez et dont nous n'avons pas parlé, un certain nombre d'interrogations qui devraient surgir.
Est-ce qu'il existe des exemples en ce qui concerne les jouets? On a... laisser libre cours à la décision des enfants pour les choisir ou pour les créer. Est-ce qu'il y a des expériences qui ont été faites, tu partes dans le pays, de fabrication de jouets?
Oui, je ne connais pas d'expérience ou d'études systématiques sur la fabrication de jouets. En fait, ce qu'on connaît sur la fabrication de jouets, c'est plutôt lié à des recherches d'ethnologie.
Oui.
Dans quelle société, quel type de jouets ont été fabriqués par les adultes ou par les enfants dans certains cas. Mais quant au choix des jouets, il y a une étude relativement récente que je connais, il y en a peut-être d'autres que je ne connaîtrai pas, qui est une étude hollandaise qui a été faite, sauf erreur, dans les années 73-74. Choisi un échantillonnage d'enfants, il y a 330 enfants qui ont été choisis, entre 3 ans et 6, 7, 8 ans. L'objectif de cette étude, c'était de voir, au fond, à quoi les enfants jouent.
à partir d'un certain matériel très varié qui était mis à leur disposition. Et l'étude a été faite à partir de toute une série de critères d'analyse, mais un des critères, c'était le critère fille et garçon. Ce sont des enfants qui ont été soigneusement choisis pour essayer d'éviter au maximum les problèmes qui seraient liés à des situations particulières des enfants. Donc, des enfants de milieu courant, pas d'enfants de famille séparée, par exemple, pas d'enfants venant de milieux exceptionnels, soit très démunis, soit au contraire très favorisés. Et l'étude faite sur les enfants de 3 ans, un groupe d'enfants de 3 ans, quant au choix des jouets, est très impressionnante. Il y a quatre possibilités de jeu. Les enfants ont été observés par vidéo, hein, donc c'est des bandes vidéo qui sont analysées ensuite. Du jeu avec des objets pour filles, la dinette, la poupée, le berceau, etc. Jeu avec des objets pour garçons, les camions et autres, garages. Des jeux neutres, les plots, les Legos, etc. Hein, ces jeux qui peuvent aller pour garçons ou filles, qui ne sont pas déterminés par rapport à un rôle social femme ou homme. Et du jeu sans matériel. Les enfants ont 3 ans, observés dans des conditions absolument similaires chez eux, mais avec un matériel qu'on leur apporte et qui est le même matériel dans tous les cas. Alors, on fait le calcul en pourcent du temps de jeu. Garçons et filles ont consacré 15% du temps de l'observation à jouer sans matériel. Exactement identique pour les garçons et pour les filles. Avec les jouets neutres, matériel de construction, etc., 25% du temps de jeu pour les garçons, 29% du temps de jeu pour les filles, donc les valeurs tout à fait comparables. Avec les jeux pour filles, 17% du temps des garçons et 40% du temps des filles. Avec les jeux pour garçons, 42% du temps des garçons et 15% du temps des filles sont des valeurs, donc à deux unités près, exactement croisées, qui montrent qu'à 3 ans, ce sont des enfants de 3 ans, il y a un choix préférentiel quand le jouet est marqué par une connotation sexe évident, alors que le choix pour des jouets neutres ou pour des activités sans support de jouet est identique chez les garçons et chez les filles. Ce qui montrerait que par rapport au choix des jouets, il y a une différenciation extrêmement précoce qui s'installe. Ça ne résout pas la question de savoir si elle est culturelle ou naturel.
Oui, pour renforcer un peu cette discussion, c'est vrai que tout à l'heure tu as dit qu'il y avait une nouvelle attitude de l'adulte à avoir peut-être plus consciente. Or, par expérience, enfin, j'ai eu cette attitude-là avec une enfant de 4 ans et s'est trouvé qu'elle avait choisi pour se déguiser.